Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Au nom de toute l'équipe d'organisation du festival, je vous souhaite la bienvenue pour le coup d'envoi de cette édition.
Showcase, film, reportage, atelier, interview. Découvrez la phase B du festival en direct de l'Electric Palace et du Break Bar.
J'aime le cinéma.
On est toujours sur le plateau de Court mais Trash en direct de l'Electric Palace et on accueille Vincent et Adrien de l'IUT de Vichy.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de vous présenter, quoi de mieux pour introduire un festival de court-métrage étudiant que la découverte d'un autre festival ? C'est pour ça qu'on accueille Jean-Marie ce soir.
Alors j'ai tendu il y a deux jours mon micro à deux initiateurs d'un festival effectivement de court-métrage qui se déroule à Rennes et qui fête cette année ses 3 ans. Dimanche midi, c'était la disco soupe à l'Electric Palace. Juste après avoir épluché des pommes de terre, pendant que la soupe était en train de cuire et que le bon son de DJ Raoul nourrissait nos oreilles, j'ai demandé à José et Pierre pourquoi ils étaient venus à Clermont-Ferrand.
Alors on est à Clermont-Ferrand en fait parce qu'on a un festival de court-métrage qui s'appelle 7ème Lune et on vient de Rennes, c'est la première fois qu'on vient ici. Et on vient ici aussi surtout pour découvrir le festival et pour voir comment le plus gros festival de court-métrage du monde s'organise. Voilà.
On a développé maintenant il y a 3 ans un festival de court-métrage, donc comme le disait José, 7ème Lune, qui est un festival de court-métrage de Rennes, le seul généraliste, qui tend à mettre en avant, de par une expérience comme on dit, des réalisateurs en devenir. Avec une sélection de 7 à 10 films et un jury professionnel et un public qui est là pour voter. Toute l'équipe organisatrice est composée de 10 personnes, composée quasi intégralement d'étudiants qui sont à la fac ou dans d'autres structures. Et par contre, on est voué en amont du festival et pendant le festival à avoir une équipe de 30 personnes qui est composée vraiment de divers endroits, que ce soit étudiants, chômeurs, travailleurs, etc. C'est un festival ouvert à tout le monde. Et à la différence de gros festivals comme Clermont, nous on essaye de s'évaporer, en tout cas ne pas utiliser les structures traditionnelles d'appel à film. Donc nous, le but c'est dénicher des talents, des réalisateurs, les mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'on mise sur une sélection complètement hétéroclite avec des sujets divers, que ce soit de la science-fiction, d'animation, de la comédie, dramatique ou romantique. À 7ème Lune, il y a de tout.
En fait, on a une sélection éclectique, bien sûr, au niveau du genre. Enfin, justement, ça peut être des films de genre, des films d'auteur, des films un peu plus grand public, mais aussi la qualification de l'œuvre, qui peut être amateur, semi-professionnel, voire professionnel, ne nous importe vraiment très peu. Et donc, du coup, on a très bien des films qui peuvent être coproduits par France 2, ou alors qui peuvent être même coproduits par Orange Cinéma Série, et aussi des films qui sont faits de manière tout à fait indépendante. Le prix du jury de l'année dernière, c'est un court-métrage qui s'est fait avec 100 euros. De budget à Budapest, d'un jeune qui vient de Clermont-Ferrand d'ailleurs. Et voilà, ça a été le prix du jury en face de films avec des budgets beaucoup plus conséquents. Donc c'est, ouais, voilà, c'est vraiment confronté dans une sélection totalement éclectique et pour nous, voilà, une sélection de qualité qui peut réellement voilà, montrer ce qu'est le court-métrage, en tout cas à un instant T, et ce qu'est le court-métrage pour nous, quoi. Voilà, c'est vraiment notre sélection. On est un comité de sélection, bien sûr, mais c'est vraiment montrer voilà, ce qu'on a envie de montrer, mais sans se brider sur un genre. Et c'est vraiment voilà, on veut que ce soit, et puis aussi au-delà de ça, une expérience, parce qu'on développe beaucoup de choses au niveau du décor et de la présence du jury. Donc on est voilà, on mise sur quelque chose qui se démarque par sa sélection, mais pas que non plus.
Si vous passez à Rennes en mars, ne manquez pas le festival du court-métrage 7ème Lune, éclectique, décalé et étudiant. À chaque ville, son festival, à chaque festival, son expérience.
Merci Jean-Marie. Donc maintenant, on va découvrir le court-métrage de Vichy. Donc Vincent et Adrien, vous faites partie des 6 étudiants sur le projet du festival du court-métrage de Vichy, qui aura lieu du 17 au 24 mars. Donc le festival, il existe depuis quand ?
En 2009, donc, il a commencé. Donc sur Vichy, il a été monté par le club audiovisuel de Vichy et l'IUT d'Allier, donc, qui est une branche de l'université Blaise Pascal. Petit festival au début. Puis maintenant, on en est à notre 7ème édition. Donc du coup, on a bien avancé. Les organisateurs sont l'agence En Attendant l'été, donc une boîte de communication sur Vichy, qui tient ça depuis 2 ans. Voilà. Et donc nous, on est là en tant qu'étudiants pour les aider à préparer et à organiser ce festival.
Donc nous, en fait, on est là en tant qu'étudiants, comme vous l'a dit Vincent, pour aider sur tout ce qui est la communication visuelle et l'organisation de celui-ci. C'est aussi une part de notre projet tutoré au sein de notre IUT et qui nous permet une insertion professionnelle après et de voir comment ça s'organise.
Ok, et donc ce festival, ça se passe à Vichy?
Tous les événements qui sont autour de ce festival se déroulent sur Vichy.
Et est-ce que c'est aussi un concours? Est-ce qu'il y a des prix décernés aux réalisateurs? Comment ça se passe?
Il y a plusieurs sélections, donc il y a la sélection amateur, francophone, régionale. C'est une sélection donc, qui se déroule sur toute la semaine, donc toute la semaine est composée donc, de plusieurs dates avec des offres. Et donc des sélections prix du public. Et bien sûr, la soirée de clôture se finit par les 9 films qui auront été sélectionnés dans la semaine et que le jury va débattre pour élire les meilleurs et une remise de prix sera organisée.
Et j'ai vu qu'il y avait une campagne Ulule pour soutenir le festival. Ça en est où? Et c'est parti de quoi?
Alors oui, exact. Le festival a participé à un projet donc, qui s'appelle le projet Auvergne Nouveau Monde. Et en fait, on a suivi différentes étapes afin de monter justement cette page Ulule. Et donc, donc cette campagne de financement se déroule sur 35 jours, c'est-à-dire que là, elle a commencé depuis maintenant 13 jours, il me semble. Elle se finit le 1er mars. Et donc, on doit récolter en tout 2 500 €. Et tout ça, bien sûr, dans le but de développer donc, la notoriété du festival au travers d'outils de communication efficaces et de cibler une campagne de presse, en fait, voilà, pour le festival.
Parmi les auditeurs, si vous voulez participer à ce beau projet, rendez-vous sur la page Ulule qui s'appelle
exactement.
Du coup Court-métrage de Vichy.
Oui, ouais. Sûrement sur la page Ulule, oui, ça va comme ça.
Bah, merci beaucoup à vous. Alors on retrouve le festival du 17 au 24 mars et d'ici là vous verrez les affiches.
Et ben c'est très gentil à vous, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Univox. La chronique de l'espace. La chronique de l'espace.
Cette année, le festival a donc choisi de mettre à l'honneur le thème de l'espace.
Logique, c'est l'année de la sortie de Star Wars 7 et la renaissance d'X-Files, alors on a tous plein d'extraterrestres dans la tête. Si vous êtes allé voir la séance ET3, parce que 7 n'existe pas, vous ne serez pas déçus. On y retrouve l'univers de la conquête spatiale avec Yuri Lemon's Landing on Alpha 46 ou encore They Will All Die in Space. Des films qui exploitent le vocabulaire habituel de la science-fiction interstellaire avec vaisseaux, conquêtes de planètes, paradoxes et drames psychologiques. L'image est en noir et blanc et superbe, définitivement moderne. Un formidable contrepoint au film La planète verte de Piotr Kamler. Tout dans le son et l'image de ce court-métrage nous rappelle qu'en 1966, l'expérimentation cinématographique était d'une puissance incroyable. On y découvre les actufages, habitants spongieux, polymorphes et immortels qui vivent sur une lointaine planète.
Ouais, bon, il faut quand même aimer les vaisseaux spatiaux, quoi.
Ouais, alors, mais il n'y a pas que ça dans E.T. 3. Et puis, d'ailleurs, l'espace, ce n'est pas que de la fiction, c'est aussi de la science tout court. La séance commence d'ailleurs par un court-métrage qui illustre assez bien la poésie des passionnés d'astronomie. Regarder l'espace, ça rend humble, ça pousse à prendre son temps. Dans le documentaire « I look at diamonds for a living », on accompagne un astronome amateur qui plante sa lunette au milieu d'une des rues les plus passantes de Melbourne, à l'heure où les gens sont tellement imbibés d'alcool qu'ils se prennent un tramway sans s'en apercevoir. La patience du scientifique amateur est mise à rude épreuve, mais il tient bon. Chaque passant qui ose s'arrêter prend son temps et finit par voir les anneaux de Saturne formidablement blancs sur le décor noir du ciel. L'espace, c'est aussi toutes les questions qui viennent avec les théories de la relativité, avec toutes les autres théories concurrentes. Si vous allez voir E.T. 3 et que vous vous demandez ce qu'est un trou noir, le troisième cours de la séance répondra en 5 minutes à votre question. Alors bien sûr, vous n'y apprendrez pas les détails de la belle théorie d'Einstein. Pour cela d'ailleurs, il faut en ce moment se brancher sur les annonces du cosmologiste Lawrence Krauss de l'université d'Arizona State qui a laissé filtrer sur son compte Twitter le 11 janvier une information qui fait grand bruit. on aurait réussi à mesurer des ondes gravitationnelles. Alors, la théorie de la relativité, elle explique presque tout sur notre univers, mais il reste encore quelques bouts à valider. Ça déchire pas mal les physiciens à travers le monde, et si l'existence des ondes gravitationnelles était validée, ce serait un gigantesque pas pour la compréhension de l'univers dans lequel nous trempons.
Pour résumer, ET3, c'est une ode à la science, et on s'en fout des humains, quoi.
Alors maintenant, au contraire même. Cette séance, elle vaut le détour rien que pour Coucou les nuages. Voilà un court-métrage qui remet le peuple au centre des découvertes scientifiques. Si vous êtes de ceux qui regrettent que l'exploration spatiale soit la chasse gardée des grandes nations du monde et de quelques multimilliardaires aux pulls à col roulé, c'est sûr, vous aimerez découvrir le projet de la cellule 22 du PSP, le programme spatial du peuple. De l'amour, du suspense, une véritable épopée confraternelle où ces habitants des Côtes d'Armor ne prennent pas les silos à grains pour défuser, mais débordent pourtant d'une ingéniosité ravageuse. Afin d'eux aussi envoyer une navette dans l'espace. Et pour finir cette séance, Good Luck Mr. Groski, qui revient sur un des aspects méconnus de l'alunissage de Neil Armstrong. Que vous croyez que les images de juillet 1969 aient été tournées dans un studio ou qu'elles aient vraiment été prises tout là-haut sur notre satellite, vous en apprendrez forcément un peu plus sur l'une des mystérieuses phrases laissées à l'histoire par l'astronaute. Bonne chance, Monsieur Groski.
Alors en résumé, ET3, c'est de la science-fiction, de la vulgarisation scientifique et de la poésie cosmique. Une belle séance donc pour revisiter ces classiques et regarder notre monde par le prisme d'une lunette d'astronomie.
C'est Clermont-Ferrand, c'est un festival de court-métrage. C'est
pour vous le lieu de rendez-vous en ce qui concerne le court-métrage, plus dans un point où il se passe
pour le cinéma et pour le coup.
J'en ai raté aucun.
Moi j'aime bien les films porno.
Sympathique, c'est pas snob, bon enfant, chaleureux.
C'est s'imbiber de vin rouge et de parler librement pendant des heures de court-métrage.
Ça aurait pu être intéressant.
Salut Benoît, alors t'es là pour nous faire un retour sur séance.
Eh ben oui, salut à tout le monde. Je vous propose un petit retour de séance. Cette séance, c'est la I5. I comme international et 5 comme les L5. Bon, I5, je l'ai vue dimanche à Cocteau. Elle se compose de 6 courts-métrages dont je vais maintenant vous parler. En ce qui concerne le premier court-métrage, il s'agissait d'un film malgache. Intitulé Anai ni Lalana, ce court-métrage de 2015 a été réalisé par Nantenaina Fifaliana. On y fait la connaissance d'un homme malgache assez âgé qui a assuré le boulot de porteur d'eau en ville durant de nombreuses années. Travail ingrat s'il en est, visant à porter sur le dos et sur la tête les bidons d'eau que des gens trop riches pour ça ne veulent pas porter, les pauvres petits bichons. Le héros du film, lui, fait ce boulot fastidieux pour gagner de l'argent afin de permettre à ses enfants de faire des études. Un vrai père courage, quoi. Porteur d'eau à Madagascar, voilà un boulot pour se ruiner le dos en gagnant quelques malheureuses pièces. Macron est fan, paraît-il. Moi aussi, mais surtout parce que ce film nous rappelle que le travail, c'est pas toujours la santé et que c'est pas si mal d'avoir un code du travail un peu protecteur. Deuxième film de la série, Le nom que tu portes, paru en 2015 et réalisé par Hervé Demers, venu du Canada et même plus précisément du Québec. On y suit les pérégrinations d'un père et de son fils venus d'Europe de l'Est et émigrés au Québec. En fait, ce dernier, le fils, un ado aux cheveux longs et gras et au regard noir, risque de se faire expulser de son lycée car il a foutu un nion à un de ses camarades. Au départ, on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Son père le récupère à l'école et l'entraîne avec lui dans sa tournée de livraison de sang. Tout du long, le père, qu'on imagine en plein questionnement sur pourquoi son fiston a fait ça, l'observe avec énormément d'appréhension, mais aussi d'amour. Et puis, comme bien souvent, survient la fin, où on apprend un peu mieux pourquoi le Jones a baffé son camarade de classe. Une si simple mais si sensible histoire de nom de famille souillée. Un film qui m'a marqué, notamment pour l'intensité des regards entre le père et le fils. Troisième film de la série, César dirais-je, en français Une longue nuit. Film irakien et des Émirats arabes unis, réalisé par Kamiran Betassi et sorti en 2014. L'histoire se déroule dans un camp de réfugiés en Iran. On y suit une femme kurde du camp qui, le soir avant de dormir, pose une paire de chaussures masculines devant la tente où dorment également ses deux enfants. Pourquoi ? Pour éviter que les gardes du camp se permettent d'entrer la nuit dans la tente. On n'est jamais trop prudent avec la testostérone des militaires. La femme et ses gosses semblent attendre quelqu'un, mais qui ? Vous le découvrirez en allant voir ce film qui parle d'un sujet méconnu, qui est celui des camps de réfugiés en Iran. film qui fera du bien à celles et ceux qui pensent que la France est le seul pays qui accueille des réfugiés. Quatrième film de la série, Auto Copa Park, film brésilien de 2015 réalisé par João Atala. On y suit un mec salarié dans un grand parking d'une grande ville brésilienne. On y voit comment un travail ennuyeux, frustrant, aliénant, mène la personne humaine à se retrouver dans de drôles de situations. À noter la petite touche inattendue et poétique de la fin du film, qui tranche avec l'omniprésence du béton du début du film. Cinquième film de la série, Picnic, film croate de 2015, réalisé par Jure Pavlovic. On y retrouve la thématique de la relation entre un père et son fils. Là, le père est en prison et son fils vient le visiter. Au départ, c'est pas la grosse ambiance et c'est plutôt le père qui cause pendant que le fils regarde ailleurs. Et puis, peu à peu, la relation s'enrichit, le père et son fils se rapprochent, jusqu'au moment fatidique de la séparation. Le topic du film est peut-être un peu convenu, mais bien réalisé, et on remarque l'évolution des émotions du fils. Enfin, dernier film de la série, le film d'animation à la Wallace et Gromit, j'ai nommé Ernie Biscuit, d'Adam Elliott. Film australien de 2015. Court-métrage à la fois tendre et loufoque, dans lequel on suit les aventures d'un taxidermiste parisien sourd. Pour suivre ses rêves, ce brave monsieur qui maîtrise parfaitement la langue morse se rend avec son noix, oui avec son noix, en Australie, où il va rencontrer un restaurateur dingo et une belle grande femme aveugle. Un très joyeux cocktail dramatique qui termine la série I5 avec une belle pointe d'humour et de générosité. Au final, la série I5, on y parle de la relation père-fils, du fait de porter des choses, de travail, de la condition de femme et maman kurde, de rêve, d'émigration et même un peu de sexe. Un condensé qui fait son effet. Ça tombe bien, la série I5 passera encore ce soir mardi à 20h15 à Genova, mercredi 19h à Capitole 1, jeudi 13h à Agnès Varda, vendredi 18h à Genova et samedi 16h à Jaude 4. I5, une série internationale intéressante et hétéroclite que je vous recommande, mais j'ai mauvais goût, alors faites gaffe.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes toujours dans Court-Métrage, l'émission spéciale de Radio Campus Clermont, spécial festival du court-métrage. Et c'est au tour d'Hugo qui est là pour accueillir Dom la Nena. Salut Hugo.
Bonsoir à tous. Donc Dom la Nena, bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis d'être là à tes côtés ce soir.
Moi aussi, merci.
Et du coup, on va essayer de te présenter un peu et de voir ce que tu as à nous dire sur ce festival.
Ouais.
Alors tout d'abord, tu es brésilienne, mm-hmm. née à Porto Alegre. Mm-hmm. Et donc dans ta jeunesse, tu as beaucoup voyagé pour la musique.
Ouais.
En grande partie pour étudier la musique et par rapport à ta famille. Mm-hmm. Si on pouvait en savoir un peu plus sur ton rapport à la musique et comment il t'a fait voyager.
Moi je suis à la base je suis violoncelliste, donc j'ai fait des études de violoncelle classique et effectivement je suis née au Brésil, mais je suis venue en France quand j'étais enfant avec ma famille pour les études de mon père, en l'occurrence pas pour les miens. Mais en France, du coup, j'ai commencé à étudier le violoncelle à fond. Et voilà, donc j'ai décidé que je voulais être violoncelliste à 10 ans à peu près à ce moment-là. Et du coup, ensuite, on est rentré au Brésil. Moi, j'avais 12 ans. Et en fait, on vient d'une ville qui est assez grande, mais où il n'y a pas une activité culturelle, et en tout cas dans la musique classique, qui soit très forte. Donc du coup, je suis partie toute seule à 13 ans à Buenos Aires, en Argentine, étudier le violoncelle pendant 5 ans. Et ensuite, je suis revenue à Paris à 18 ans. Et voilà, et donc depuis, je travaille beaucoup et je suis sortie un peu de la musique classique, enfin même totalement, je dirais. Parce oui. que du coup, j'ai commencé à accompagner des chanteurs et des chanteuses.
Notamment Jeanne Birkin, j'ai cru comprendre, partie en tournée avec elle pendant long moment.
Ouais, c'est la première... La première collaboration, enfin le premier travail que j'ai eu.
D'accord.
Et du coup, je suis partie 2 ans en tournée avec elle. Ensuite, j'ai joué avec plein d'autres gens. Et puis du coup, j'ai commencé à composer et je suis devenue chanteuse. Là, je résume vraiment grandes lignes. Hein. Et en fait, donc, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai commencé à chanter du coup aussi.
D'où et l'album Ella.
Voilà, j'ai fait mon premier album Ella qui est sorti en 2013. Mmh. Que j'ai fait, j'ai produit avec Pierre Swatini, avec qui je jouais beaucoup. Et depuis, j'ai sorti un autre album d'un autre projet qui s'appelle Birds on Wire avec Rosemary Stanley du groupe Moriarty, avec qui on a un duo, un groupe, ouais. je sais pas. Et ce disque est sorti
surtout
en 2014.
Des reprises.
Ouais, c'est un songbook en fait, c'est des reprises violoncelle-voix.
D'accord.
Et ce qui vont de Purcell et Monteverdi jusqu'à Leonard Cohen ou Tom Waits, voilà. Et cette année, j'ai sorti mon deuxième album qui s'appelle Soyo, voilà, au mois de juin, et je suis en tournée avec ce disque.
Et ben, d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que avant de passer à donc ton rapport à l'image et ta participation à ce festival, mm-hmm. qu'on peut écouter une de tes chansons de ce deuxième album, qui est juste une chanson, parce que dedans tu y chantes en français et en portugais, ouais. me semble. Donc voilà.
Univox.
Nous sommes de retour sur 93.3 Radio Campus pour les émissions Court-Métrage à l'occasion de la 38e édition du Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, et nous sommes en compagnie de Dom la Nena. Voilà, c'était bien fait. Alors, Dom, du coup, on a parlé de ta carrière en tant que musicienne, ouais. de chanteuse, de tes deux albums. Et moi, du coup, au détour d'Internet, j'ai pu voir que tu avais fait réaliser plusieurs clips par la même personne, donc Jérémia,
ouais, ouais.
un réalisateur parisien qui a fait des clips notamment pour Sophie Hunger ou The Do.
Ouais.
Et j'aurais aimé savoir, moi, et je pense que les auditeurs aussi, si tu avais eu du coup un regard artistique, si ces réalisations avaient été faites en collaboration avec cette personne ou si c'était beaucoup son projet.
Non, bien sûr, on travaille, on est mariés, donc on travaille beaucoup ensemble, pas que dans les vidéos. C'est lui qui fait toutes mes photos, c'est lui qui fait, enfin qui Il est vraiment presque à l'origine du projet aussi. C'est lui qui a créé toute l'image en fait de tout ce que je fais. Donc surtout sur les vidéos de mon premier album, c'était des vidéos qui étaient presque de l'ordre du documentaire. En fait, c'était des vidéos qui étaient des images en super 8 beaucoup, parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la pellicule. Et donc c'était juste des situations du quotidien. En fait, c'était pas du tout conscient en général pour moi qu'on était en train de faire une vidéo. D'accord. Et en fait, il arrivait à détourner ça et comme en plus mon premier album était un disque très intime, c'était des chansons très très personnelles et c'était des ambiances vraiment très intimistes, ça se mariait très bien en fait, ce côté documentaire et très personnel et très presque voyeur parfois. Avec les chansons et l'album, ouais.
Donc ça a été sa façon à Jérémia de cerner le personnage un peu et l'ambiance de ton album.
Voilà,
et qui
ouais.
lui a donné cette esthétique. Et ben c'est bien réussi car ces images un peu intimistes.
Mais c'est vrai
qu'après
la composition, c'est quelque chose aussi de très visuel. Donc j'ai quand même des images j'avais quand même un parti pris et une direction vers laquelle je voulais aller. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas quelqu'un qui arrive avec un synopsis de clip, avec une histoire, avec un début, une fin et tout prêt. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on construit au fur et à mesure tous les deux ensemble. Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que lui, il est vraiment spécialisé dans la musique depuis 15 ans. Il fait des clips pour énormément de gens, ouais. Donc Camille, The Do, Springer, REM, enfin vraiment des artistes qui sont super. Et voilà, c'est quelque chose qui lui est assez très, très naturel pour lui, quoi.
Et du coup, on va revenir maintenant qu'on a parlé toi de l'image de ce qui a pu être créé pour tes chansons, de ta participation au festival.
Ouais.
Donc c'est la première fois que tu es jury. Est-ce
ouais.
que c'est la première fois que tu viens à ce festival?
Ouais, ou... ouais.
D'accord.
D'ailleurs, c'est la première fois que je viens de manière aussi intense à un festival de cinéma. J'ai déjà fréquenté des festivals de cinéma, mais j'ai jamais fait toutes les séances du
d'accord.
début à la fin. En tout cas, là, je fais que la catégorie nationale, mais. Mais oui, c'est la première fois que je viens à Clermont. Ouais.
Comment tu as été approchée, toi, par ce festival? Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette aventure?
J'ai été invitée par une des personnes qui travaille dans l'organisation du festival et qui était venue me voir en concert et qui aime beaucoup ce que je fais. Et en fait, tous les ans, ils invitent un musicien à être dans le jury de la catégorie nationale. Et en fait, à vrai dire, ils m'avaient même invitée l'année dernière. Je pouvais pas, les dates marchaient pas. Et donc, du coup, heureusement, ils m'ont réinvité cette année et c'est vraiment une expérience hyper enrichissante. Et même moi, par rapport à tout ce que je fais en image, tout ce qu'on fait avec Jérémia et tout le processus créatif, c'est hyper intéressant en fait. C'est voir des films avec un autre regard, un autre angle, d'autres paramètres aussi. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant en tout cas comme expérience.
Et du coup, sur cette expérience, quel est ton ressenti sur ces premiers jours de festival? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Écoute, je peux pas trop en dire.
Oui, bien sûr,
parce
pas
que,
sur la sélection
voilà,
elle-même.
Mais en tout cas, disons que moi j'ai du mal souvent avec le théâtre et le cinéma contemporain français. À la base, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui s'est fait dans les années 60, 70, 80 en France. Et puis depuis, j'ai souvent du mal. Et en fait, là, je me réconcilie quand même pas mal parce que j'ai vu de très beaux films. Voilà. Et puis c'est intéressant c'est aussi presque une analyse de la société parce que c'est voir. Parfois il y a des sujets qui reviennent souvent et des choses qui sont un peu de l'actualité en fait. Et c'est intéressant de voir plusieurs versions des mêmes sujets parfois.
Dom La Nena, on a été ravis d'avoir ton avis sur ce festival. Une petite approche sur toi et tout ça.
Merci beaucoup. Hugo, merci Dom La Nena d'être venu.
Merci à vous.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.